Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Marilyn Hérault.
9h02 sur Sud Radio, on est encore avec vous jusqu'à 10h dans le Grand Matin avec Philippe David et nos invités. Dans la prochaine demi-heure, les événements qui ont marqué 2021, c'est Adeline Divou qui reviendra sur la mise en place en juillet dernier du pass sanitaire avec son invité. Hervé Beckham, vice-président confédéral de l'UMI et hôtelier et restaurateur dans le Finistère. Et puis restez avec nous, avec notre chef du jour, vous pourrez gagner un déjeuner pour deux dans un endroit merveilleux. Mais pour le moment, sur Sud Radio, il est 9h03, c'est l'heure de démarrer les grands débats du matin. L'actualité du jour, c'était hier les annonces du gouvernement sur les nouvelles mesures prises par le Conseil de défense pour lutter ou en tout cas freiner l'évolution du Covid avec la montée du variant Omicron. On a trois invités pour l'instant. Benjamin Berge, patron du restaurant Le Coq de la Place à Rodez, vice-président de la branche.
À mon avis, on dit Bergès dans l'Aveyron.
Bergès.
Désolé, là c'est le sud-ouest qui parle.
Ah, très bien.
Merci.
Joyeux Noël. Bon, Benjamin Bergès, patron du restaurant Le Coq de la Place, à Rodez,
oui, bon.
Avec un Z, vice-président de la branche restauration de l'UMI dans l'Aveyron. Bonjour, bienvenue. Nous avons aussi le docteur Nicolas Brugère, médecin généraliste à Bordeaux et adhérent de la Confédération des syndicats médicaux français, et Frédéric Bizard, économiste spécialisé des questions de protection sociale et de santé. Bonjour et bienvenue à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue à tous les trois. Alors, quand on regarde le sondage Sud Radio, 96,6% des votants pensent que les mesures prises par le Conseil de défense sont inefficaces pour freiner l'évolution du Covid-19. On va commencer avec vous, docteur Nicolas Brugère. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Bah non. Je suis évidemment pas d'accord. La base de la protection contre cette épidémie, c'est prendre des mesures de distanciation, c'est porter le masque et c'est se vacciner. Donc voilà, il n'y a rien à faire. On a un virus qui est là, qui est très envahissant, qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant, qu'on découvre au fur et à mesure. Et on sait que c'est une des méthodes. C'est assez difficile à supporter pour la société, mais c'est un virus qui a déjà tué plus de 5 millions de personnes dans le monde. Si on compte les chiffres officiels, donc on peut dire qu'il y en a beaucoup plus qui sont morts, si on compte les Chinois, les gens de l'Inde qui ne sont pas décomptés et d'autres pays. Donc voilà, c'est un virus qui est grave, qui est dangereux pour les personnes, mais aussi qui trouble le système social. Et c'est ça qui est compliqué à vivre, c'est-à-dire qu'il faut s'en défendre, et en même temps, il faut essayer de faire en sorte que notre société puisse vivre du mieux possible. Et voilà les contraintes auxquelles on est confrontés tous,
Frédéric,
médecins et autres.
Frédéric Bizard, vous êtes d'accord avec les auditeurs de Sud Radio qui pensent que les mesures ne sont pas efficaces pour contrer Omicron? Ils sont 96,6% à dire ça.
Et je crois que ce qui apparaît dans un peu le florilège de mesures, un petit peu un inventaire à la Prévert qu'on a eu hier, d'abord, je pense que ce Conseil de défense n'est plus adapté à une gestion qui va durer d'une crise qui doit, avec cette verticalité où on attend finalement un peu des mesures miracles. Et comme ça a été dit par le docteur Brugère, on connaît maintenant parfaitement les mesures barrières, les mesures qui sont efficaces. Je suis assez d'accord avec vos auditeurs pour dire qu'en essayant de vouloir un petit peu satisfaire tout le monde, c'est-à-dire mettre un minimum de contraintes, en particulier pour les fêtes, et puis finalement, on finit par ne satisfaire personne parce qu'encore une fois, les gens sont assez matures et comprennent ce qui est efficace et de ce qui n'est pas efficace. Et en fait, dans ces mesures, ce qui rend un petit peu sceptique, c'est que d'abord, on a des mesures qui sont trop tardives. On est véritablement à un pic ou proche du pic de cette cinquième vague. Est-ce que véritablement, c'est maintenant qu'on va arriver à contenir les contaminations par le télétravail ? Je pense qu'il y a assez longtemps que le télétravail aurait pu être mis en place. Il n'y a rien qui est véritablement évoqué sur le milieu scolaire. Ce milieu scolaire, il y a une incidence de plus de 900 cas sur 100 000 dans le milieu scolaire. On peut se poser la question, il y a des médecins qui ont fait des tribunes, qui ont dit attention, c'est un sujet extrêmement important, il va falloir prendre de vraies mesures. Bon, là, on n'a pas de mesures qui sont prises. Donc, il y a aussi des mesures qui sont un petit peu des mesures d'affichage, qui sont pour le coup complètement inefficaces, les jauges de 2 000 à l'intérieur ou de 5 000 à l'extérieur. Mais si vous avez quelqu'un qui a un stade, qui a une équipe de foot...
Un stade de 80 000 places comme le Stade de France, on peut mettre plus de personnes que 5 000.
Voilà, et si vous avez finalement une capacité de 5 000 personnes, qu'est-ce que vous faites ? Oui, donc je pense qu'il y a des recommandations sur des bases scientifiques qui auraient pu être mises pour essayer d'avoir les mêmes règles partout, essayer que ça soit clair pour la société civile. Et là, on a un sentiment un petit peu de... C'est relativement brouillon et in fine, c'est pas très convaincant, je suis assez d'accord.
Alors Benjamin Bergès, notre restaurateur, les mesures, vous aviez peur parce que finalement pour les restaurateurs, ça va surtout être la consommation debout interdite. Qu'est-ce que vous inspirent les décisions annoncées hier ?
Pas grand-chose pour nous personnellement, ça, il n'y a rien vraiment qui change, juste avec plus de soirées de serveurs au comptoir. Donc c'est le côté bar qui va en prendre un coup, mais on les installera dans la salle. Moi, ce qui me gêne un petit peu plus au niveau des mesures, c'est au niveau des jauges en lieu clos à 2000 personnes, alors qu'on a fermé les discothèques et qu'on a interdit dans certains départements comme nous, en fait, l'utilisation des salles des fêtes pour les traiteurs. Donc c'est là où on a une incompréhension en fait pour nos, plus pour nos collègues que nous, restaurateurs purs. Nous, en restaurant, on ne va pas rentrer 2000 personnes ici. Il n'y a pas de problème. Oui. On le
Ou
sait.
Alors, c'est un très grand restaurant.
C'est ça. C'est ça. Un petit, nous. Mais c'est là, en fait, où on se pose des questions. C'est des fausses. Ce n'est pas des fausses mesures. J'en sais rien. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas comme les deux autres invités. Je ne suis pas conscient de tout. Mais nous, la consommation en bar, en quoi elle est plus dangereuse que de mettre 2000 personnes dans une salle fermée? Je ne comprends pas vraiment.
On va poser la question au docteur Nicolas Brugère. C'est vrai quand même qu'il y a beaucoup de choses incohérentes, non ?
Ce n'est pas si incohérent que ça. Quand vous êtes assis à table, vous êtes à une certaine distance, peut-être pas 1m50, mais au moins à une certaine distance. Et le problème de la position debout pour consommer, c'est qu'à la première bière, au premier mojito, ça va, mais au troisième, on se lâche. Quoi. Donc, donc, cette contamination, on sait qu'elle est essentiellement portée par les postillons. Elle est essentiellement portée par le fait que je crache des micro-organismes sur ceux qui sont en face de moi, et la proximité est facteur de contagion. Ça, il n'y a rien à dire, rien à faire. C'est la proximité avec un masque moins, la proximité sans masque, oui.
Et quand on déjeune voilà assis pourquoi... au restaurant face à quelqu'un, quand on déjeune assis au restaurant, en fait, et qu'on discute...
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, j'ai des patients et des patientes qui ont été contaminés au restaurant, mais beaucoup moins que des gens qui se contaminent debout. Et c'est le risque de la boîte de nuit, typiquement. Mais c'est le risque
donc la moindre. La problématique, la problématique est aussi donc, la consommation d'alcool. Ça désinhibe, ça fait que les gens sont un peu plus... il y a moins de gestes barrières. Mais dans ce cas-là, pourquoi on autorise les soirées, en fait, et pourquoi on autorise les jauges à 2000 personnes et 5000 personnes? On sait très bien que dans les soirées où il va y avoir 2000 personnes, il y aura de la consommation d'alcool. Nous, dans les bars, dans les restaurants et dans les boîtes de nuit, on maîtrise ça. Parce que quelqu'un qui, en fait, est en excès d'alcool, on sait le maîtriser, le gérer et puis le raccompagner. Si ce n'est pas contrôlé, ce n'est pas maîtrisé, c'est encore pire, en fait.
Vrai sujet. Oui. Justement, Frédéric Bizarre, est-ce que quelque part, on n'a pas voulu, ça va faire plaisir à notre ami restaurateur, ménager la chèvre et le chou, et que on ne pouvait pas refermer les restaurants, bien évidemment, donc on fait une mesurette, parce que, désolé, moi, les gens qui sont debout au comptoir, c'est quand même infinitésimal par rapport aux gens qui sont assis dans les restaurants, en général, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Est-ce qu'on n'a pas fait aller... ménager la chèvre et le chou, c'est ça, pour des critères économiques.
Oui, mais c'est surtout, je pense que le facteur essentiel, c'est qu'on arrive trop tard. Si vous voulez, c'est que maintenant, c'est vrai qu'aller interdire aujourd'hui aux gens de se réunir pour le 31, 4 jours avant le 31, évidemment, oui. C'est impensable. C'est impensable économiquement, mais c'est impensable aussi socialement. Aller maintenant retarder la date, il y a un certain consensus où il serait bien de retarder un petit peu la date de rentrée scolaire. On voit bien que c'est beaucoup trop tard maintenant. On ne pouvait plus l'organiser maintenant. Et qu'on ne vienne pas nous dire que retardé d'une semaine, ça va mettre en péril l'éducation des enfants, sachant que maintenant, nous sommes relativement rodés, moi-même qui suis professeur dans les universités, on est relativement rodés et on est capable de gérer de l'enseignement à distance de façon relativement efficace. Mais le problème, c'est que c'est trop tard.
Mais la dernière fois qu'ils ont fermé les écoles, on l'a appris le vendredi pour le lundi.
Mais là vous mettez le problème, c'est que donc c'est trop tard. Donc je comprends que le gouvernement aujourd'hui prenne des demi-mesures, vous appelez ça des mesurettes. Maintenant la question, c'est que c'est un petit peu renvoyer la responsabilité de cette ultra-contamination aux acteurs, aux soignants, aux enseignants, puisque en fait c'est un petit peu débrouillez-vous. Maintenant il y a 900 cas pour 100 000 enfants. Nous les envoyons en classe et débrouillez-vous avec ça. Alors on met un petit peu des recommandations, mais vous voyez ça va être problématique pour le mois de janvier. Et idem pour les, le fonctionnement de la médecine de ville, de la médecine hospitalière. Il va y avoir un nombre, on le sait bien, le comité scientifique l'a dit, il y a une désorganisation économique et sociale qui va être très importante, non pas pour des questions de létalité du virus, pour des questions de désorganisation due à des arrêts de travail. C'est ça la problématique de janvier. Donc là, il va falloir que la société civile véritablement s'organise par rapport à ça. Et je pense que là, il faut être dans une société de confiance dans ce cas-là.
Alors justement, Benjamin Bergès, vous êtes restaurateur et vice-président de la branche restauration de l'UMIH dans l'Aveyron. Comment ont réagi vos confrères aux annonces d'hier soir ?
Ben, comme on dit, c'est des mesurettes. Il n'y a rien de concret pour nous, quoi, directement. Et comme dit monsieur, si c'est trop tard, quelles vont être les vraies mesures ? Parce qu'en fait, si vous voulez, on attend quelque chose de concret, qu'on nous dise la vérité, quoi. Ben, c'est quoi ? C'est on va avoir un couvre-feu, on va avoir des jauges, on va fermer. Enfin,
mais vous, au restaurant, ce qui vous pend au nez, c'est le contrôle d'identité ou avec la loi.
Le pass sanitaire plus contrôle d'identité.
C'était ça, en fait. Surtout qui.
On n'a pas forcément. Ouais, non. Voilà, excusez-moi. Oui, peut-être, mais on a déjà contrôle d'identité. Déjà que le contrôle de passe sanitaire, ça nous prend du temps. S'il faut contrôler la pièce d'identité, le temps que la personne sorte de la pièce d'identité, tout ça, moi, je ne peux pas embaucher un gars que pour ça.
Mmh. Oui.
Il ne faut pas oublier on a fermé les boîtes de nuit. C'était les seuls endroits où ils faisaient tout ça. Parce qu'ils avaient les videurs qui faisaient les contrôles du passe sanitaire et les contrôles d'identité par rapport au passe sanitaire. On a fermé ces endroits quand même. Et ils le faisaient, puisqu'ils contrôlent l'âge des jeunes.
Dans quel état, presque 2 ans après le premier confinement, dans quel état sont les restaurateurs ? Il y en a beaucoup qui ont mis la clé sous la porte ?
Alors, beaucoup qui ont mis la clé sous la porte, on a été beaucoup aidés. Ça, on ne peut pas s'en cacher, et c'est vrai. Donc voilà, je pense que la problématique, elle est beaucoup plus sur le moral. Donc il y a beaucoup d'affaires qui ont été vendues, rachetées, des gens qui ont arrêté l'activité. Mais je pense qu'en fait, c'est qu'il y en a beaucoup qui en ont marre. Et la problématique va être surtout sur la ruralité. Nous, on est le département de l'Aveyron, on est un département rural, et on sait qu'en fait, les petites entreprises de campagne, elles vont beaucoup souffrir parce que les gens en ont marre, les restaurateurs en ont marre. Il y en a qui étaient proche de la retraite en disant « je fais encore 1 ou 2 ans et puis je vends ». Et bien aujourd'hui, ils veulent lâcher l'affaire et se barrer. Et le problème, c'est qu'il n'y aura pas forcément de repreneurs. Et c'est là où on aura une grosse problématique aussi.
Ça réagit au 0826-300-300, Marine.
Oui, on a Pierre de Toulouse qu'on accueille. Il voulait réagir justement sur ce sujet. Bonjour Pierre.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Bienvenue
Bonjour.
Sur l'antenne.
Bienvenue sur Sud Radio.
On vous écoute.
Voilà, je suis très choqué quand même de voir que ces mesures sont des demi-mesures et que le gouvernement ne prend pas conscience qu'aujourd'hui, quand même, on n'a pas de vaccin Omicron. Et si on a réduit de 6 à 3 mois le délai entre les deux vaccins, c'est justement parce que derrière, on n'a pas d'autres solutions. Et je trouve quand même dommage qu'on confie encore une fois la responsabilité aux médecins de choisir quel est celui que l'on va condamner ou celui que l'on va garder, sachant que lorsque vous avez 20 personnes qui rentrent donc à l'hôpital au service d'urgence, vous n'avez pas 36 000 places. Si vous n'avez que 10 places, et bien sur les 20 qui vont rentrer par exemple, bien on n'en choisira que 10. Et c'est ça le drame aujourd'hui, que depuis le début les médecins essayent d'expliquer, mais que pour Laurent, ce n'est malheureusement pas pris en compte. Alors certes, le président, il y a cette élection qui arrive au mois d'avril, et qu'il souhaite peut-être un petit peu cacher un peu tout ça pour maintenir, en effet, on le voit, on n'a pas de jauge dans les meetings, mais où on va ? C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'aller dans un meeting et derrière, vous n'avez même pas la possibilité de boire ou de manger debout dans un restaurant. Mais on est, c'est vraiment pour moi quelque chose de flagrant, ni plus ni moins.
Alors justement, Pierre, on va faire réagir nos invités, mais on doit faire une petite pause pour le moment. On remercie Benjamin président du restaurant Le Coq de la Place à Rodez et vice-président de la branche restauration de l'UMIH dans l'Aveyron.
Merci beaucoup. À tout de suite, il est 9h16 sur Sud Radio. Restez avec nous et on continue les grands débats du matin. À tout de suite.
Le grand matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Marie-Line Hérault.
9h18 sur Sud Radio, merci d'être avec nous et bienvenue dans le Grand Matin. On continue les débats du Grand Matin avec nos invités. Nicolas Brugère, médecin généraliste à Bordeaux et adhérent de la Confédération des syndicats médicaux français. Frédéric Bizard, économiste spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Et on accueille un nouvel invité, François Nicolas, producteur de spectacle, président d'Amaclio Productions. Bonjour messieurs, bienvenue François Nicolas.
Alors,
et rebonjour messieurs.
On va faire réagir tout d'abord le docteur d'ailleurs Nicolas Brugère sur les propos de Pierre de Toulouse, qui dit qu'il y a un vrai problème, c'est que le vaccin n'est peut-être pas si efficace que ça, du moins certains vaccins contre le variant Omicron, c'est bien ça ?
D'abord, moi je ne crois pas que ce soit des mesurettes. On a un virus qu'on découvre au fur et à mesure qu'il vient, et je crois nos représentants essaient d'adapter les réponses au plus près possible du moindre dysfonctionnement de la société. C'est ça qui est recherché. Concernant les vaccins, on sait qu'ils sont efficaces. Regardez quand même les personnes qui sont hospitalisées en réanimation.
Ah, on parlait sur Omicron.
Oui, mais d'accord. Mais on a plus de personnes âgées qui soient dans ces… Le virus atteint beaucoup les enfants. Omicron, c'est un nouveau virus qu'on découvre. On ne peut pas inventer un vaccin en 3 semaines ou même en 3 mois. En revanche, les Israéliens montrent que la vaccination est plus efficace si on vaccine au bout de 3 mois plutôt qu'au bout de 6 mois. Eh bien, on s'adapte. On est typiquement dans un mode de fonctionnement médical. La discussion entre les uns et les autres, les médecins, est toujours sur tous les sujets de cette nature-là, elle n'est pas sur la place publique en général. Aujourd'hui, on a un virus qui est Omicron et les autres virus, coronavirus, qui sont sur la place publique parce que c'est un phénomène mondial et qui est… Donc, tous les débats ont lieu sur la place publique. Parfois, il vaudrait mieux un peu plus de recul, un peu plus de distance. Moi, je ne crois pas que ce soit des mesurettes, mais il faut trouver des mesures qui font le moins souffrir la société possible.
Alors, on a parlé des restaurateurs, on va parler des producteurs de spectacles. Bonjour François-Nicolas, vous êtes président d'Amaclio Productions.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, vous produisez des spectacles comme La Nuit aux Invalides, les spectacles à la Cité de Carcassonne, au Mont-Saint-Michel, etc. Donc, des spectacles historiques. Alors maintenant, les concerts debout sont interdits. Quand vous faites La Nuit aux Invalides, où les gens sont en général debout, mais peuvent s'asseoir par terre, pour continuer, vous allez leur dire « asseyez-vous par terre ».
Écoutez, là, je viens d'entendre le docteur qui parlait de mesurettes. Je ne pense pas qu'on ait des mesurettes. Je suis assez d'accord avec lui. Les annonces d'hier sont beaucoup plus graves que ça. On passe du pass sanitaire au pass vaccinal. C'est ça, hier, qui a été annoncé. C'est pas le fait de manger assis debout couché, avec un masque, sans masque, avec une paille à travers le masque. Tout ça est complètement dérisoire. C'est pour faire passer, effectivement, pour nous faire parler sur autre chose. Pour moi, la chose grave qui a été effectivement dite, annoncée hier de manière officielle, c'est de passer du pass sanitaire au pass vaccinal. Pour nous, producteurs de spectacles, on s'est pris effectivement une première lame qui nous a scié les pattes cet été avec l'annonce du pass sanitaire, et on se prend une deuxième lame avec l'annonce du pass vaccinal. Donc on était déjà à genoux, on a perdu 50% de notre chiffre d'affaires, et là on va encore perdre, à mon avis, 50% du chiffre d'affaires dans les mois qui viennent. Donc on va être à 25% du chiffre d'affaires annuel classique, hein, c'est 25%. Les aides se sont totalement arrêtées, effectivement, je pense que le monde de la culture, qui pour moi est quelque chose d'essentiel dans la vie d'un homme…
La culture, c'est ce qu'il reste quand on a tout oublié, c'est comme le dit un proverbe.
C'est cela, comme le dit un proverbe. Donc là, on est, je pense, sur quelque chose d'absolument dramatique, puisque tous les compteurs sont remis à zéro, en fait, pour tout le monde.
Alors que les théâtres ont joué le jeu depuis le début. Hein.
Oui.
Alors que tout le monde a joué le jeu, tout le monde a joué le jeu. Moi, mes spectacles sont en extérieur. L'été, en intérieur l'hiver. Je lance d'ailleurs, ça fait 2 ans que je travaille sur un projet magnifique, absolument extraordinaire, sur une reconstitution en réalité virtuelle qui dure 40 minutes sur Notre-Dame de Paris, à travers les âges, pendant 800 ans, 2 ans de travail, des millions d'euros d'investis. Je démarre le 15 janvier, à la Grande Arche de la Défense. Ce sera annoncé par une grande conférence de presse le 12 janvier avec l'établissement public en charge de la restauration, le diocèse de Paris, le groupe Orange, qui est partenaire de ce projet et même d'ailleurs l'initiateur. Moi, j'en suis le producteur. Je pense que nous sommes repartis à zéro, en fait, pour l'ensemble des Français. Donc, j'entends bien qu'il y a déjà 21 millions de gens qui sont partis faire leur troisième dose. Mais maintenant, vous avez 2 doses, il vous faudra un test pour rentrer. En plus, et un test, on sait qu'il va durer 24 heures, etc.
Et tous ceux qui travaillent dans le milieu de la culture aussi, tous les intermittents.
Tous les intermittents, voilà quoi. C'est absolument dramatique. Effectivement, les gens qui reçoivent du public, c'est absolument dramatique.
Alors justement, on va faire réagir l'économiste Frédéric Bizard. Vous entendez François-Nicolas, c'est vrai que le monde de la culture, comme on dit, il a pris cher.
Oui, je suis d'accord avec Monsieur Nicolas qu'en fait, la mesure principale qui va être mise en place en janvier, c'est le pass vaccinal. On en a moins parlé parce qu'en fait, on en parle depuis une quinzaine de jours et qu'hier, il y a eu un certain nombre d'autres mesures que je qualifie de mesures, on va dire, non structurantes pour pas être pour dégrader. Mais la mesure la plus structurante, ça va être en effet le pass vaccinal. Alors, la question, une fois, c'est le vaccin. Le vaccin, il faut, ça a été dit par Monsieur Berger, j'ai bien aimé son expression, c'est-à-dire qu'il faut nous dire la vérité. Il faut dire la vérité sur les vaccins. Le vaccin, c'est une arme absolument essentielle qui permet de réduire le risque de façon considérable. Je voyais hier qu'il y avait 9% de la population qui n'était pas vaccinée. Et alors, là, parmi les gens qui meurent du Covid, il y en a 36% de gens qui ne sont pas vaccinés. Vous voyez, on est sur un rapport de 1 à 4. Donc, si vous voulez vous protéger, il faut vous vacciner. En revanche, le vaccin ne permet pas une protection totale aussi bien dans le risque d'attraper le virus que dans le risque de le transmettre. D'accord, le vaccin n'est pas une arme parfaite. Donc, je pense que ça, il faut le dire aux Français, mais ce qui n'empêche qu'il faut aller se vacciner. Alors, quelle va être l'efficacité, quel est l'objectif du pass vaccinal? Plus de 90% des adultes français se sont vaccinés. Donc, le pass sanitaire a été un succès. La conférence de presse de début janvier, ce qu'on appelle en économie, c'est la théorie du nudge, c'est-à-dire la théorie du coup de pouce. On a juste donné l'incitation qu'il fallait pour que les Français soient persuadés qu'il fallait se faire vacciner. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est fait. Est-ce qu'il faut aller plus loin pour convaincre les 9% de Français qui ne sont pas vaccinés? Est-ce qu'il faut donc serrer la vis avec un pass vaccinal? Moi, j'en doute. Je pense qu'il faut aller chercher tous ces Français non vaccinés un petit peu par des mesures de terrain, mais en fait, ça risque de se retourner. Je suis d'accord aussi pour les métiers de la culture, mais pour l'ensemble de la vie économique et sociale, sur les 90% de Français qui vont aller se faire vacciner pour une troisième dose et qui vont devoir, partout où ils vont aller, montrer un pass vaccinal, alors qu'encore une fois, il n'y a pas de problème pour eux, ils sont vaccinés et donc il faut à la fois qui continuent à être vigilants, parce qu'on voit bien que les gestes barrières sont aussi importants aujourd'hui que la vaccination, si on veut vraiment contrôler la transmission du virus. Donc, j'ai un doute, moi je suis très sceptique sur les conséquences de ce pass vaccinal, sur à la fois l'incitation à se faire vacciner de ceux qui ne sont pas vaccinés, je pense qu'elle sera faible, et sur les conséquences négatives sur le monde de la culture, mais sur l'ensemble de la vie économique et sociale à partir du 15 janvier. On a un problème d'offres. On n'a pas un problème de demande par rapport à la vaccination. On a un problème de capacité à vacciner rapidement tout le monde. Et puis, on a un problème de qualité des vaccins. Il va falloir développer un nouveau vaccin pour Omicron parce que probablement que l'efficacité sera plus faible.
Alors, on a beaucoup de réactions sur notre standard 0826-300-300. Et on accueille Diane de Perpignan qui voulait réagir avec nous et témoigner. Bonjour Diane, bienvenue.
Bonjour Diane.
Bonjour tout le monde.
On vous écoute.
Voilà. Voilà, je téléphonais tout simplement pour savoir. Ça me pose question quand même. Entre médecins, entre vous-même, quand vous passez, quand vous les entendez à la télé, il y en a, surtout les médecins, surtout les pédiatres, surtout les pédopsychiatres qui passent à la télé, que eux-mêmes sont contre ce que vous êtes en train de dire pour les enfants. Vous les entendez entre vous-même, même profession, vous êtes contre, vous contredisez pour les enfants. Et on écoute les pédopsychiatres, tout ce que vous êtes en train de dire, eux ils disent que vous exagérez, qu'il faudrait ralentir, arrêter de dire tout ce que vous dites sur les enfants. Et vous, vous continuez. Donc écoutez-vous entre vous-même, je vous dis, écoutez-vous entre vous-même déjà, ce serait déjà pas mal à place de venir nous dire ce qu'on doit faire ou pas faire. Écoutez-vous entre profession, vous-même, écoutez-vous. Et respectez-vous, écoutez-vous. Alors... Après, j'ai une autre question à vous poser.
Oui.
À Orléans, ma fille a accouché à Orléans il y a un mois.
Oui.
Je connais des personnes qui travaillent à Orléans. Vous savez, oui. Des manipulateurs, des médecins, j'en connais deux ou trois. Là, ce qui s'est passé, comme ils nous ont dit, nous on doit rentrer dans les hôpitaux avec des passes sanitaires. On doit rentrer avec des tests. Veuillez m'expliquer comment ça se fait que je ne veux pas stigmatiser non plus. Les gens du voyage peuvent rentrer comme ils veulent, combien ils veulent, parce qu'on ne veut pas de problème. Parce que quand ils rentrent à eux, et qu'ils rentrent à 10 derrière, eh bien vous n'avez pas la possibilité de les arrêter. Parce qu'ils vous mettent leur boîte dans les urgences, dans les... et on les laisse faire. Et à nous, on nous interdit d'aller voir nos patients.
Alors,
on va aller voir nos gens, les personnes qu'on connaît. pas normal non plus.
Alors Diane, on va faire réagir justement le docteur Brugère. Docteur, vous avez entendu Diane de Perpignan qui pose deux questions. C'est vrai que beaucoup de vos confrères ne sont pas d'accord sur la vaccination des enfants ou pas. Ça, c'est une vraie question.
Ça a déjà d'ailleurs commencé pour les 5-11 ans. Hein.
Et la deuxième chose, c'est les contrôles à l'hôpital. C'est vrai que si on arrive à 10 avec, en étant menaçant, on va peut-être vous laisser rentrer alors qu'on ne laissera pas rentrer une personne ou deux personnes toutes seules dont une n'est pas en règle sur le pass sanitaire.
Donc, je vous disais tout à l'heure que les débats médicaux sont toujours tendus entre les médecins.
Et ah oui.
Depuis que la médecine existe, mais elle n'a pas lieu sur les chaînes publiques de télévision ou les chaînes privées de télévision et de radio. Donc voilà, là, on a encore une fois affaire à un phénomène tout à fait nouveau. Et effectivement, on a des débats entre les médecins. Moi, je trouve malheureux que ce débat ait lieu de cette manière publique parce que le public n'a pas forcément toutes les clés du problème. Mais oui, on peut discuter du fait qu'une vaccination est utile ou pas entre 5 et 12 ans, plus ou moins utile. On sait en tout cas qu'au-delà de 80 ans, elle est absolument indispensable. Concernant les personnes qui ne sont pas vaccinées, moi je suis médecin généraliste, j'ai quelques patients dans ma clientèle qui ne sont pas vaccinés, dans ma patientèle, on n'y arrivera pas. Les personnes qui ne sont pas vaccinées aujourd'hui, avec la première dose, à part quelques exceptions, on n'arrivera pas à les vacciner. Donc il faut trouver des mesures différentes pour qu'elles soient protégées, et les mesures barrières sont les meilleures mesures par rapport à ceux qui ne sont pas vaccinés. On va se battre, on va continuer à se battre, mais on va avoir du mal à arriver à convaincre ceux qui ne sont pas convaincus aujourd'hui.
Les gens qui ont reçu 3 doses, qui sont contaminés mais asymptomatiques, doivent être confinés pour éviter aux non-vaccinés de finir à l'hôpital.
Vous voulez que je lance le débat ? Je n'en suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu personnellement, mais je ne vais pas lancer le débat public parce que je pense qu'on peut être porteur sain du virus, le transmettre et pas forcément être contaminant de manière violente par rapport aux gens qui sont très protégés.
Alors, docteur Brugère, ça réagit beaucoup au 0826-300-300.
On a Jean-Pierre de Villefranche-sur-Saône qui voulait réagir. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Jean-Pierre.
Jean-Pierre ? Allô Jean-Pierre ?
Allô Jean-Pierre ?
Bonjour, il est en Normandie, Jean-Pierre, mais c'est pas très grave.
C'est pas Villefranche-sur-Saône, c'est en Normandie, c'est pas le même coin, non, ça c'est clair.
Oui, je vous entends.
Alors, on vous écoute. On vous écoute.
C'est pas grave du tout. Voilà, moi ce qui m'amène, c'est un petit peu différent. Je pose la question, que se passe-t-il depuis bientôt 2 ans? Beaucoup de gens continuent à utiliser des vieux masques chirurgicaux, sortis d'un sac, détachés d'un rétroviseur, sortis d'une poche, espérons que ce ne soit pas la poche où il y avait le mouchoir, ou le portable à postillon également. On utilise donc de vieux masques qui sont portés en plus souvent sous le nez. Sous le nez. Alors, moi je pose la question, quand passerons-nous au FFP2 comme dans d'autres pays voisins? On offre du gel aux gens, du gel désinfectant dans les magasins, beaucoup passent tout droit et vont toucher les tomates pour voir si elles sont mûres. Ensuite, moi j'ai même appelé une ARS pour leur demander ce qui se passait. Vous savez ce qu'on m'a répondu? Écoutez
non.
Bien, je ne sais pas si j'ai le droit de dire de quelle ARS il s'agit,
allez,
ce serait gênant pour eux, je ne le dirai pas.
Alors, ne le dites pas.
C'est en Normandie en tout cas. Et alors la personne, cette dame m'a dit... Non, je ne le dirai pas, mais voilà. Cette dame m'a répondu, mais monsieur, ce n'est pas mon travail d'aller vérifier ce que les gens font. Une ARS qui m'a répondu ça, vous entendez bien ?
Oui.
J'ai pas fait de réclamation, c'est long, c'est pénible, j'ai vu, il y a un formulaire épouvantable. Mais qu'est-ce qui se passe que nous ne sommes pas des citoyens, que nous ne respectons pas non plus les distances qui sont maintenant de 2 mètres, si je me trompe pas, depuis janvier. Très peu. Moi, je trouve encore des garages qui ne veulent pas porter de masque dans le bureau. Et je vois des artisans commerçants qui ne portent pas de masque ou le masque sous le nez. J'ai vu il y a quelques jours une boulangère, elle en est à la visière. On lui a fait une fermeture administrative, la gendarmerie a fermé la boutique carrément. Elle a rouvert et elle a une visière qui n'est pas légale et qui mérite une amende. Qu'est-ce qui se passe que personne ne fait une émission là-dessus sur le peu de citoyenneté? Nous ne respectons pas.
Voilà. Alors merci beaucoup Jean-Pierre de Normandie. Il nous reste une minute, on va faire réagir François Nicolas, producteur de spectacle. Ça vous pose vraiment beaucoup de problèmes, les mesures annoncées pour vos spectacles qui devaient sortir en début d'année ?
Je ne pense pas. Je pense que tout ça est complètement illusoire. Quand je vois un Premier ministre qui me dit s'il faut que je prenne mon café debout ou assis, je vous avoue que ça me passe un peu au-dessus de la tête. Je le dis très franchement à ce monsieur qui vient d'intervenir et qui ne comprend pas que les Français arrêtent de se contrôler entre eux. Moi, je trouve ça très bien que les Français ne se contrôlent pas entre eux. Je suis contre cette société totalement fracturée depuis 2 ans, une société de délation. Tout ça me désole profondément. C'est pas ça que je veux pour mes enfants. Donc, on peut me parler effectivement de l'engorgement des hôpitaux, parce que ça, c'est un vrai sujet et c'est le sujet essentiel depuis 2 ans. C'est l'engorgement des hôpitaux. Et très bizarrement, on n'entend pas le gouvernement sur ce sujet. On vient de l'apprendre hier d'ailleurs, moi je l'ai appris hier, 5000 lits ont encore été fermés depuis 2 ans.
Sur l'année dernière, 5700. Sur l'année dernière,
voilà,
5700.
5700 sur une seule année. Sur 2020.
En 2020.
Voilà, sur une seule année, voilà, j'étais même encore trop optimiste.
Oui.
Donc il y a un sujet, c'est celui-là. Le reste, il faut arrêter de monter les Français les uns contre les autres. C'est absolument cataclysmique pour le psychisme des gens. Et alors, effectivement, il y a le Covid, il est meurtrier, c'est une saloperie, tout le monde le sait, mais il n'y a pas que le Covid dans la vie. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. On remercie tous nos invités,
merci,
François
oui.
Nicolas, Benjamin Bergès, Frédéric Bizarre et le docteur Nicolas Brugère. Verdict sur Twitter. Les mesures prises par le Conseil de défense sont-elles efficaces pour freiner l'évolution du Covid variant Omicron ? Vous dites non à 97% et 97 pile poil. On était à 96,9, on est passé à 97. Merci beaucoup à tous.
Merci en tout cas de vos réactions. Et
merci à tous.
Merci Sud Radio, 9h35 dans la prochaine demi-heure. Il y a les événements qui ont marqué 2021 avec Adeline qui reviendra sur la mise en place du pass sanitaire le 21 juillet dernier avec son invité. Et puis il y a un chef aussi qui va nous accompagner pour la fin de cette matinale. On vous fera gagner grâce à lui 2 menus déjeuner offerts dans le restaurant merveilleux du Vivarais à Vals-les-Bains en Ardèche chez Stéphane Poli. Restez avec nous, il est 9h35 sur Sud Radio.